Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Il y a une grande différence entre la drague et le harcèlement. Cette différence réside dans le consentement.
Constitue un outrage sexiste le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Le harcèlement de rue peut revêtir différentes formes. On pense souvent à tout ce qui est sifflement, déshabillage du regard, les injures, les commentaires sur l'apparence, aussi des exhibitions publiques, des menaces, être suivi par exemple, la filature, le frotteurisme. En sciences humaines, quand on parle de harcèlement de rue, donc ça peut être la distance inappropriée, une proximité physique de la victime, parfois jusque dans les magasins, une insistance inappropriée, donc des comportements de l'auteur qui ne prennent pas en compte le refus de la personne, et le contenu de l'interaction verbale qui est inadapté, donc du contenu agressif, hostile et ou sexualisant.
Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off, stop harcèlement de rue. C'est le nom de l'asso dont nous recevons à nouveau quatre membres. Marilyn.
Bonjour, bonjour.
Marie.
Bonjour tout le monde.
Merlin.
Bonjour.
Et bonjour Milou, le compte est bon, les quatre M sont bien réunis autour de ce micro.
Et oui, bonjour, c'est moi la quatrième.
Les 4 M que vous aurez rencontrés au dernier épisode de cette série contre les VHSS, violence, harcèlement, sexiste et sexuel. On parle ici VHSS dans des espaces semi-publics comme les bars ou les festivals, et même un festival aussi cool qu'au quart de tour, organisé tous les ans au mois de juin par Radio Béton. Que la fête soit belle et au maximum safe pour tous, et pas seulement pour une certaine catégorie de la population, c'est pas seulement un enjeu festif, c'est un sujet éminemment politique. Oui, une fois que la teuf est finie, continuez à vivre ensemble et avec respect. On en parle encore aujourd'hui avec les 4 M qui, la dernière fois, nous expliquaient que Stop Harcèlement de Rue mène de nombreuses actions de terrain, sensibilisation, pédagogie, mais pas seulement. Stop Harcèlement de Rue fait aussi du travail législatif dont on va parler aujourd'hui. Cette émission a été produite à Tours, région centre, ville qui nous servira d'exemple pour évoquer une situation générale, et s'il n'y en a pas ou plus par chez vous, peut-être que cette conversation vous donnera envie de monter ou de reprendre une antenne Stop Harcèlement de Rue là où vous vivez. Ou si ça n'existe pas encore par chez vous, de reprendre par exemple cette idée du dispositif Angela, sorte de label pour lieux et commerces safe de la ville. On vous reparlera de tout ça en fin d'émission. On est avec les 4 M, Marilyn, Milou, Merlin et Marie, de Stop Harcèlement de Rue. De quoi on parle aujourd'hui, Merlin ?
Alors après avoir parlé de notre association du harcèlement de rue en général, on va revenir sur des politiques publiques menées par les responsables politiques successifs. On a pris une période de 10 ans en arrière, vu que l'association Stop Harcèlement de Rue, on l'a dit, a un tout petit peu plus de 10 ans. On a souhaité pour cette deuxième heure une rétrospective sur les politiques publiques concernant le harcèlement de rue.
Marie.
Pour commencer sur cette partie qui concerne les politiques publiques, l'intérêt culturel pour le phénomène, il a émergé dans les années 1990 aux États-Unis, puis en 2012 avec un documentaire de Sophie Peters, j'espère que je prononce bien son nom, en Belgique. Donc en fait, à ce moment-là, en Belgique, la loi du 22 mai 2014 tendait à lutter contre le sexisme dans l'espace public et elle disait que toute personne ayant un comportement ou un geste en public ou en présence de témoins visant à considérer une personne comme inférieure ou à la mépriser en raison de son sexe ou encore de la réduire à sa dimension sexuelle peut être punie.
Milou.
En Belgique, il y a une loi depuis 2014, suite à ce documentaire en fait. Et en France, si on zoome un petit peu, c'est beaucoup beaucoup plus récent. En fait, avant 2018, il n'y avait rien dans la loi qui qualifiait particulièrement l'outrage sexiste, qu'on va définir ensuite, à savoir une partie du harcèlement de rue. En fait, on pouvait, si on subissait certaines choses dans l'espace public, on pouvait être reconnu victime si on subissait une injure publique, spécifiquement, une exhibition sexuelle, une agression sexuelle, par exemple. Ce qui fait que certains comportements n'étaient pas encadrés. par la loi, donc pas reconnus, et il n'y avait pas de politique publique particulière par rapport à ça, même si, voilà, depuis effectivement 2012, la Belgique, c'est quand même pas loin, on en parlait déjà dans les médias.
Donc voilà pour la Belgique et en France.
Donc depuis le 3 août 2018, il y a une loi qui est passée, qui encadre l'outrage sexiste. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette loi ? Elle dit que constitue un outrage sexiste le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste, qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Alors nous, quand nous en tant qu'association, pas nous les gens ici parce qu'on n'y était pas forcément, quand cette loi elle est sortie, on a été un petit peu entendu, en tout cas on a été entendu, on a eu le droit de parler, on a été convoqué en table ronde pour échanger sur le sujet avec d'autres associations qui étaient également présentes et d'autres personnes militantes. On n'est pas forcément contre une loi qui encadre le harcèlement de rue, au contraire, c'est intéressant. Et surtout, ça permet d'engager des vraies politiques publiques un peu plus d'ampleur quand il y a un arsenal juridique derrière. Pour autant, il y a certains points qu'on a soulevés, en tout cas sur lesquels on avait des doutes à ce moment-là déjà, c'est que cette loi vraiment encadrer seulement une toute petite partie du harcèlement de rue. Elle s'appelle outrage sexiste. Donc on comprend bien que ça va seulement être le harcèlement de rue sexiste et sexuel. Donc on oublie déjà les autres personnes qui le subissent, se rapporter aux autres infractions ou délits que j'ai évoqués précédemment. Et en plus, ça va seulement englober les choses qui sont vraiment visibles. En fait, il faut les prendre sur le fait, il faut avoir des preuves. Enfin, c'est quand même assez compliqué réellement, en pratique, en fait, d'en faire quelque chose. De plus, on avait à ce moment-là alerté, sans avoir encore de données plus précises, sur des risques de dérive, en sachant qu'on parle vraiment à ce moment-là de dérive potentiellement raciste, parce qu'en fait on a un vrai harcèlement ciblé des policiers, des forces de l'ordre, policiers, gendarmes, sur les personnes racisées, notamment sur les hommes racisés, qui risquaient d'être amplifiés en prenant l'excuse de cette loi. Parce que quand c'est sorti, il y avait quand même, il y en a toujours eu, une montée des violences policières envers les personnes racisées et l'État ou les institutions risquaient d'envoyer en fait plus de forces de l'ordre dans certains quartiers qui seraient considérés comme plus susceptibles d'avoir du harcèlement de rue. Alors qu'on l'a démontré, confrère épisode précédent, que c'était pas forcément le cas, qu'il n'y avait pas forcément de quartier du harcèlement de rue, que ça dépend de beaucoup de critères en tout cas, et que surtout on est contre l'utilisation du droit des femmes, du féminisme et de la lutte contre les VSS, les VHSS, l'instrumentalisation de cette lutte-là pour juste en fait faire des politiques publiques plus racistes et plus répressives. Donc on a simplement alerté, parce qu'on n'avait pas de données plus précises là-dessus. Et cette loi a évolué. Donc la loi d'outrage sexiste, on parle de 2018, vraiment mise en œuvre 2019. Et en fait, en 2022 est arrivée la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qu'on va appeler la LOPMI. C'est pas nous qui l'appelons comme ça, c'est l'État. Cette loi de programmation, cette LOPMI, c'était un projet de loi qui allait inclure énormément de choses, parce qu'on parle de la programmation et de l'orientation du ministère de l'Intérieur. Et en fait, caché à l'intérieur, il y avait une partie sur l'outrage sexiste. Proposition, en fait, de modification, d'ajout sur cette loi. Et on a été entendus, nous, à nouveau, par cette fois-ci l'Assemblée nationale et le Sénat, sur des tables rondes pour pouvoir présenter notre compte-rendu de cette loi et nos revendications. Ce qui s'est passé au niveau de l'État à ce moment-là, c'est qu'il y a quand même eu un retour, une étude en fait sur la pertinence de cette loi qu'on a consultée, qui est assez léger et qui donne des chiffres. Et en fait, sur ces chiffres qu'on a pu consulter, ils sont consultables publiquement, on a relevé pas mal de choses, je ne vais pas rentrer évidemment dans les détails techniques, mais on a notamment constaté que seules les formes les plus graves de l'outrage sexiste étaient vraiment reconnues et condamnées, et que ce n'était pas tout à fait l'objet de la loi initiale en 2018. En fait, pour nous, ça invisibilise vraiment la problématique globale du harcèlement de rue, qui subit, comme on l'a dit dans l'épisode précédent également, que la victime va subir vraiment une répétition de comportements. Et là, on n'est vraiment que sur des actes très spécifiques, et encore une fois, les actes les plus graves qui sont reconnus. L'autre chose qu'on a identifiée en inspectant ce rapport du ministère de l'Intérieur, c'est que parfois, l'outrage sexiste était utilisé en fait par les tribunaux, par les juges, pour requalifier des agressions sexuelles. Comme parfois des viols vont être requalifiés en agressions sexuelles, et bien cette fois-ci, des agressions sexuelles étaient requalifiées en outrage sexiste. L'outrage sexiste, c'est une infraction. Ça n'a absolument rien à voir avec une agression sexuelle, ce qui pour nous est très très problématique. On a donc été entendu pour présenter ce rapport de notre part aussi, qu'on a construit, donc je le disais au Sénat et notamment, surtout même à l'Assemblée nationale, parce qu'on a vraiment une table ronde avec d'autres associations qui a duré assez longtemps avec des députés et le rapporteur de la loi. Et en fait, on avait des revendications à ce moment-là. Nous, l'idée n'était pas de dire annuler cette loi, déjà parce que ce n'est pas possible, et parce que c'est quand même intéressant d'avoir une loi qui encadre, même s'il y a des choses qu'on a à reprocher. Nous, on avait comme principale revendication le fait d'ajouter circonstances aggravantes, l'identité de genre. Parce que dans les circonstances aggravantes, il y en a plusieurs. Je ne vous les cite pas toutes, mais c'est par exemple quand on est dans un lieu destiné dans les transports en commun, type une gare, c'est une circonstance aggravante que de subir un outrage sexiste, parce qu'on est coincé dans l'idée. Si c'est en fonction de notre orientation sexuelle, c'est une circonstance aggravante. Si on subit un outrage sexiste et qu'en plus c'est homophobe, lesbophobe, c'est une circonstance aggravante. Et en fait, dans tout ça, il n'y avait pas l'identité de genre, alors que la transphobie est quand même quelque chose qu'on subit énormément quand on est une personne trans dans l'espace public. Et pareil, il n'y a jamais trop rien pour se protéger au regard de la loi, j'entends, à ce niveau-là. Donc c'était important de l'inclure aussi dans les circonstances aggravantes pour mettre la lumière dessus et puis le prendre en compte. On avait aussi d'autres revendications qui étaient plutôt des alertes à nouveau, et cette fois-ci plus éclairées sur à nouveau les dérives potentielles, voire avérées de ces lois-là sur en fait le harcèlement, encore une fois, envers les personnes racisées, notamment les hommes dans les quartiers dits prioritaires, dits sensibles des villes, par les forces de l'ordre. Et enfin, on avait une inquiétude par rapport à la réception des plaintes. Parce que les chiffres étaient assez bas quand même par rapport au nombre en fait de flagrants délits. Parce qu'encore une fois, il faut vraiment que ce soit un flagrant délit la plupart du temps. Ça l'est en tout cas. Et du coup, on se demandait, mais parce que ça ne représente pas du tout la réalité en fait. C'est impossible évidemment que ce soit les vrais chiffres. On les a, nous, les chiffres. Rien qu'en termes de témoignages reçus, on prend la proportion, ça ne collait pas. Et en fait, les plaintes ne sont pas reçues, ne sont pas prises en compte. Malgré le fait qu'il y ait des formations sur la base du volontariat dans les commissariats, en fait, l'accueil est toujours déplorable pour une partie des victimes, trop dans tous les cas, et une grande partie quand même. Et donc, on a alerté et fait remonter aussi cette problématique. C'est que, bah, en fait, quand on subit du harcèlement de rue, quelle que soit sa forme, on ne va pas porter plainte pour diverses raisons, mais notamment à cause de l'accueil qui en est fait et du fait que ça ne serve à rien. En tout cas, c'est ce que nous disent la plupart des personnes, parce qu'il n'y a jamais de suite, parce que c'est classé sans suite, notamment.
Sur ce sujet, je vous cite le premier article trouvé sur Internet, un papier du journal Le Monde en 2022. En matière de violences sexuelles, la dernière enquête de victimation de l'INSEE, cadre de vie et sécurité, révèle des chiffres effrayants. Seulement 0,6% des viols ou tentatives de viol auraient donné lieu à une condamnation en 2020. S'agissant des viols pour lesquels une plainte a été enregistrée par la police, les chiffres du ministère de la Justice indiquent que seuls 14,7% ont donné lieu à une peine. C'était en 2022 donc. Nous avons déjà évoqué beaucoup de chiffres terribles et effarants avec Mélo et Sylvie de l'Assaut Les Établis au précédent chapitre de cette série. Épisode à réécouter sur notre site polemix et lavoixoff.com. Donc on voit bien que le texte est imparfait, heureusement il existe, mais il n'est pas parfait et perfectible, donc il y a des tas de choses qui échappent au radar, si j'ose dire, de cette loi. Si je prends le cas de figure, par exemple, d'une personne qui irait déposer chaque matin une gerbe de fleurs sur le paillasson de quelqu'un qui a déjà exprimé son non-consentement à recevoir cela, qui a déjà exprimé son souhait de ne pas interagir, bah ouais, mais quoi, bah, je suis gentil, j'offre des fleurs. Ben non, c'est du harcèlement, voire de l'intimidation, même avec des fleurs. Voilà, on voit que le texte n'est pas parfait, qu'il y a des tas de choses qui peuvent passer hors de portée du radar.
Oui, carrément, en fait, on se rend compte qu'on manque de mots, ou en tout cas on manque de choses dans le cadre légal pour nommer ce qui se passe dans la rue, et pour nommer en particulièrement le harcèlement de rue. La création du délit d'outrage sexiste, elle est structurante, parce que justement, avant ça, tu l'as évoqué, il y avait simplement l'injure publique, l'exhibition sexuelle, l'agression sexuelle. On voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas nommées et qui ne sont pas encore... Si elles ne sont pas nommées, elles ne sont pas répréhensibles parce qu'elles n'existent pas dans le droit français. L'outrage sexiste vient apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui existe et qui arrive. Ce qui existe légalement ne recouvre pas encore tout le sujet. Tu l'as évoqué, Milou, il y a des personnes victimes de harcèlement de rue qui ne sont pas concernées par l'outrage sexiste. Et en effet, ce cas de figure intimidant, comme tu as pu l'évoquer... de venir tous les matins faire ce qui pourrait sembler être une attention, En effet, il y a quelque chose de l'ordre de l'intimidation, de l'entrave à la liberté de la personne qui recevrait cette gerbe de fleurs tous les jours, à sa liberté de disposer de l'espace public, qui ne correspond pas encore à quelque chose qui existe légalement dans les textes de loi. C'est pour ça que les choses avancent et c'est pour ça qu'on considère qu'il y a encore des lois à créer, justement, encore des choses à définir. Mais l'outrage sexiste vient toutefois définir quelque chose de structurant dans le cadre du harcèlement de rue.
Marie-Line.
Pour répondre à la question, est-ce qu'on peut harceler avec des bouquets de fleurs ? Oui, on peut harceler avec des bouquets de fleurs à partir du moment où la personne qui reçoit les bouquets de fleurs ne consent pas à recevoir ces bouquets de fleurs. La différence entre le harcèlement ou la drague ou toute forme de sollicitation, c'est le consentement. À partir du moment où la personne ne consent pas, il y a harcèlement.
Un peu de musique au cours de cette émission et Marie-Line, c'est ta sélection.
Je vous propose un classique des années 80 avec le groupe Bananarama et Robert De Niro's Waiting. C'est une des premières chansons qui parle de harcèlement. Dans un couplet, elles disent, alors je vous traduis parce que c'est en anglais, « Une balade dans le parc peut devenir un cauchemar. Les gens me regardent et me fixent. Alors je regarde le mur et je me projette un film dans lequel Robert De Niro m'attend en parlant italien. »
Robert De Niro's Waiting, Bananarama, 1984, avant 40 ans plus tard, en 2024, de retrouver Marie-Line, Marie, Merlin et Milou de l'association Stop Harcèlement de Rue, qui, en plus du travail de terrain, fait aussi de la formation en milieu scolaire et autres, Et d'ailleurs, qu'en est-il de la formation des policiers et policières? Est-ce que les choses s'améliorent sur ce front? Est-ce que vous avez eu des retours?
Oui, une fois j'ai été bien reçue au commissariat. Une autre fois, non, mais... En fait, la formation, elle va être faite, et heureusement, ça fait quand même un petit moment maintenant que c'est en cours de travail. Et effectivement, à Tours notamment, on va avoir des OPJ qui vont être formés à accueillir les victimes, et il y a même une personne qui est référente. On peut noter aussi qu'il y a une personne référente des questions LGBTI+. C'est super intéressant quand même de le savoir, et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter, par exemple, à se tourner vers nous, à se tourner vers, je vais les citer sans l'avoir demandé avant, mais France Victimes, qui est une super asso aussi, qui va pouvoir accompagner sur ces questions-là et pouvoir même vous aider à déposer vos plaintes ou à faire valoir vos droits, en fait, si vous le souhaitez.
C'est l'occasion, puisqu'on l'évoque, de rappeler que c'est une obligation légale pour les policiers et les policières de prendre les plaintes. Parfois, quand on se présente au commissariat, on se voit refuser son dépôt de plainte. Quand un policier ou une policière refuse de prendre notre plainte, c'est le policier ou la policière qui est en infraction. Et donc, c'est pas forcément facile à lui dire ou à lui faire entendre, mais prendre la plainte, c'est une obligation de la police. Et lorsqu'on est face à un agent ou une agente qui refuse de prendre notre plainte, le recours, c'est d'écrire au procureur ou à la procureure de la République. Donc c'est pas simple forcément pour une victime qui vient au commissariat pour se faire entendre et pour déposer plainte. Mais le recours, en effet, lorsque un agent se met en infraction en refusant de prendre une plainte, c'est d'écrire au procureur ou à la procureure de la République en évoquant que cet agent, ce jour-là, à tel endroit, à tel hôtel de police, a refusé de prendre la plainte. Puisqu'on l'évoque, rappelez que c'est une obligation légale de prendre les plaintes.
Et on peut aussi déposer une plainte en ligne, directement, si on ne veut pas passer par la phase commissariat physique. Alors je vous donne le site, c'est juste service-public.fr, vous mettez un slash, vous mettez CMI, et vous allez pouvoir déposer directement plainte sur la plateforme en ligne, et ça vous permettra de skipper la case commissariat.
Marilyn, concernant le sujet donc des formations des fonctionnaires de police.
Eh bien, nous avons participé à plusieurs réunions organisées par un organisme de formation. Nous avons pu donner la définition du harcèlement de rue. On a pu exprimer notre point de vue, notre façon d'aborder les points pour le combattre, de former aussi à l'accueil, à l'écoute, à l'empathie. On a bien exprimé également que nous étions intersectionnels. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accueillir que les femmes, il faut accueillir tout le monde, les personnes LGBT, handicapées, racisées, les travailleurs, travailleuses du sexe, toute personne minorisée en situation de harcèlement devait être reçue par leur service.
Intersectionnalité, notion employée en sociologie et en réflexion politique, désignant la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou de discrimination dans une société. Ainsi, par exemple, une personne appartenant à une minorité ethnique et issue d'un milieu pauvre pourra être à la fois victime de racisme et de mépris de classe.
Donc ils ont écouté notre point de vue et puis d'autres associations, il y avait le planning familial, le centre LGBTI, et à partir de ce travail collectif, l'entreprise de formation a monté donc son programme à destination de la police municipale, et nous sommes d'ailleurs toujours en contact avec la police municipale puisque l'année 2024 est consacrée à la lutte contre les VSS, les violences sexistes et sexuelles, et nous faisons régulièrement des points avec la police municipale à ce sujet, et prochainement au mois de juin.
Stop Harcèlement de rue fait donc du travail de terrain, sensibilisation, formation, mais participe aussi à du travail législatif, à la mise en place de politiques, de lois, de campagnes de communication, ce qui implique de travailler avec députés, sénateurs, ministres, maires, et aussi avec d'autres associations. Milou.
En 2022, on a été sollicité par un collectif qui s'appelle Héroïne 95, qui est un très très chouette collectif, qui avait une initiative de mener une campagne de communication en partenariat, minima financier, avec le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. On nous a contactés du coup dans ce cadre, on a accepté avec grand plaisir de participer. L'idée de cette campagne de communication, c'était de créer un kit de communication à destination des municipalités, donc de toute municipalité, commune qui le souhaite, et qui a simplement à réclamer le kit de communication, qui s'avérait du coup être gratuit, avec un financement par le ministère. Nous, on a participé, Stop Harcèlement de rue, à la création de visuels et de contenus avec un illustrateur avec qui on avait déjà travaillé, qui s'appelle Aurélien Raffanel, qu'on salue très fort parce qu'il est très cool, qui nous a créé trois belles affiches qui sont toujours disponibles sur notre site internet, qui sont consultables, téléchargeables gratuitement. Et Héroïne 95 a créé tout le kit, vraiment a géré la logistique incroyablement bien. Et ensuite, ça a été transmis aux communes qui le réclamaient. Petit point négatif, on manque vraiment d'informations au final, nous, sur le nombre de villes qui ont répondu, à part au démarrage où on nous a fièrement dit « telle ville a répondu ». Aujourd'hui, on ne sait pas du tout où ça en est, alors bon, ça fait pas très longtemps, fin 2022 c'était. Donc voilà, cette campagne de communication, alors certes, c'est, le ministère n'a pas fait grand-chose, à part vraiment la partie financière et la logistique d'envoi, mais c'est déjà très important. Ça, c'est un exemple de campagne qui peut exister au niveau public.
L'année dernière, en 2023, nous avons été invités par le ministère des Transports, par Monsieur Clément Beaune, pour participer à une campagne contre les VSS dans les transports publics. Donc il y avait des associations féministes, des associations de voyageurs, les taxis, enfin voilà, tous les usagers et acteurs du transport en général. Donc l'idée était de mener une campagne de communication à destination des victimes, mais aussi à destination des témoins et à destination des agresseurs également, avec un rappel à la loi sur ce qu'ils encouraient pour les infractions qu'ils commettaient. Cela a donné lieu, après plusieurs réunions, à une campagne qui a été visible dans le métro parisien et à la gare Saint-Lazare, une campagne qui s'appelait « Levons les yeux », et dont j'ai eu la chance de voir le visuel parce que je me trouvais à Paris au bon moment, et qui renvoyait donc vers un site, un kit de communication qui était téléchargeable sur Internet. Alors la campagne était censée ne pas être centralisée sur Paris, parce que j'avais, durant la réunion, insisté sur le fait que les transports, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans toute la France des transports. On m'avait assuré qu'il y aurait une communication nationale déployée sur tout le territoire, sauf que dans la région Tourangelle, moi j'ai rien vu. Donc je pense que quand ils ont parlé de la province, ils devaient penser à Lyon-Marseille et c'est tout. Parce que nous, à notre niveau, on n'a rien remarqué. Cette campagne devait se continuer en 2024, mais on n'a pas eu de nouvelles. Il y a eu remaniement ministériel, alors on ne sait pas où ça en est. Est-ce que la campagne va continuer ou pas ? Affaire à suivre.
Il y a eu aussi des flyers créés par le ministère de l'Intérieur avec Darmanin, qui ont été distribués en fait dans les commissariats aux personnes qui venaient déposer une plainte pour du harcèlement de rue ou ce qui s'en rapproche, quoi, en tout cas selon les personnes qui les distribuaient. Ces superbes petits flyers qui ont été faits sans aucunement consulter les associations, aucun mail, on a vérifié, hein, aucun appel, rien du tout, ont repris littéralement nos flyers, en plus court. Et vraiment, quand je dis nos flyers, c'est-à-dire les flyers de Stop Harcèlement de rue, qui reprennent eux-mêmes en fait, ce qui existe déjà, c'est-à-dire tout ce qui est porté par les associations, avec vraiment le même ordre des choses, etc. Et c'est pas la première fois que le gouvernement, quel qu'il soit, va en fait utiliser le travail des associations pour le reprendre à son compte, sans citer ni consulter aucunement, sans parler du fait que j'ai pas forcément envie d'avoir un petit flyer qui, à part les poncifs habituels, ne fait sinon que me dire que je dois aller porter plainte.
Donc on appelle ça comment, du gouvernement splaining?
On garde.
Bon, les 4M, Stop Harcèlement de rue, c'est bien beau de critiquer ce très vertueux et dynamique personnel politique. Tu as mentionné un monsieur Darmanin tout à l'heure, c'est pas quelqu'un qui avait une plainte pour je ne sais quoi
ou... Non, ça commence... commence par V.
Bref, c'est bien beau de critiquer, mais qu'est-ce que vous proposez, hein? Alors, on vous l'a fait souvent celle-là, je suis sûr.
Oui. On peut prendre deux axes principaux. Dans un premier temps, on souhaiterait vraiment des vraies études qui portent sur la pertinence de ces lois, de ces politiques publiques, de ces outils, et aussi sur leurs possibilités d'amélioration au sujet du harcèlement de rue et puis de tout ce qui touche aux discriminations dans l'espace public en général. C'est fait en Belgique, par exemple. Belgique, donc, comme on le disait, un peu plus novateur que les autres, notamment sur cette question-là. C'est fait aussi au Canada. Bon, là, je donne deux pays pour exemple, mais ce n'est pas du tout les seuls qui le font. Et en général, notre asso et d'autres assos sont complètement prêtes à participer à ce type d'études, de recherches sur vraiment la... pertinence de ces politiques et sur ce que ça implique et les choses positives qu'on pourrait en tirer et au contraire les choses vraiment à modifier. Récemment, on a eu un échange en fin d'année dernière avec des avocates canadiennes qui travaillent en fait pour le ministère de la Justice au Canada. On a eu cet échange parce qu'en fait, elles mènent un grand travail de recherche sur justement l'impact des politiques qui sont mises en œuvre au Canada par rapport à tout ce qui va être violence sexiste et sexuelle. Et donc, elles avaient un petit focus harcèlement de rue et donc elles nous ont contactées pour qu'on puisse échanger à ce sujet-là. Et leur objectif, c'est de comparer différents pays. Évidemment, ce n'est pas exhaustif parce qu'elles ne parlent pas toutes les langues. Elles parlent espagnol, français, anglais, donc elles interrogent beaucoup de pays qui parlent ces langues. Ou en tout cas, les associations peuvent leur répondre. On trouve ça super intéressant comme travail. L'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir une recherche d'une grande ampleur, pouvoir vraiment questionner ce qu'on fait, comment on peut le faire, est-ce qu'on peut mieux faire, comment c'est fait ailleurs. Et ça, en France, on ne le retrouve pas du tout aujourd'hui. Et d'ailleurs, petit fait notable, elles nous ont parlé de quelque chose qui est assez spécifique. On échangeait notamment sur le sujet de ce fameux harcèlement ciblé quand même des forces de l'ordre sur les personnes racisées. Et en fait, au Canada, ce qu'elles ont mis en exergue, c'est envers les personnes sans domicile fixe. En fait, les personnes qui vivent ou vivent majoritairement dans la rue, en tout cas au Canada, ce sont celles qui vont vivre beaucoup aussi de harcèlement de la part de la police. Et en fait, elle se questionne, elle, à la base, sur est-ce que vraiment ces lois, c'est une bonne idée, si au final, c'est pour, là aussi, instrumentaliser tout ça pour continuer à harceler des personnes qui sont déjà, en plus, en difficulté. Et donc, on a fait le lien, comme ça, avec les spécificités en fonction des pays.
C'est vrai que le manque d'études concernant le harcèlement de rue est assez criant. Et on le voit aussi sur les sollicitations qu'on reçoit en tant qu'association militante sur le sujet du harcèlement de rue. C'est un sujet qui intéresse beaucoup, notamment le monde étudiant. Il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes en sciences sociales, justement, qui nous sollicitent et qui nous demandent quelles sont les études existantes concernant le harcèlement de rue. On n'est pas un institut de sondage, on n'est pas un laboratoire de recherche, on n'est pas non plus une institution publique, donc on part de ce qui existe déjà. Et on aimerait évidemment beaucoup plus d'études sur le sujet, pour notamment rappeler en effet que la lutte contre le harcèlement de rue ne doit pas défendre des idéaux racistes ou classistes ou psychophobes. Le harceleur, et les seules informations qu'on a, c'est sur le genre des personnes qui harcèlent dans la rue. Donc voilà, on veut plus d'études sur harcèlement de rue pour avoir plus de pertinence dans nos réponses et surtout pour répondre à un vrai intérêt de la communauté étudiante, en tout cas sur ces sujets-là, et de la jeunesse en général.
À Tours, on avait eu une enquête qui avait été menée il y a quelques années. Une étude qui avait été menée par une personne qui était en stage ou en service civique, enfin qui avait une mission courte sur le sujet, et qui avait abouti à un chiffre assez effarant de 97% des Tourangelles, puisque c'était évidemment axé comme d'habitude harcèlement sexuel et sexiste uniquement, 97% des Tourangelles ont déjà vécu du harcèlement de rue. Et l'enquête, par contre, elle était vraiment bien faite. C'était détaillé de qu'est-ce que vous avez vécu, c'était précis. Parce que quand on demande aux gens est-ce que vous avez vécu du harcèlement de rue, même les gens qui en ont vécu parfois répondent non, parce que c'est pas ciblé. Et là, c'était vraiment, est-ce que vous avez déjà vécu être déshabillé du regard, subir des sifflements, subir des insultes, des coups de klaxon, etc. Et il y avait tous les détails, ce qui fait qu'on a non seulement ce chiffre terrible de 97% des Tourangelles ayant vécu déjà du harcèlement de rue, et en plus, on avait vraiment le détail. Par exemple, celui-là, il m'est bien resté en tête, 18% des Tourangelles indiquaient avoir déjà vécu, subi, une exhibition publique. Donc quelqu'un qui se touche la nouille devant elle. Sans leur consentement, évidemment. On a réclamé qu'il y ait une nouvelle étude qui soit faite. On a dû réclamer ça en 2018 ou 2019. On nous a répondu avec plaisir, bon courage. Donc vraiment, on attend que ce soit nous qui fassions ces enquêtes-là. Ça coûte super cher de faire une enquête. On n'a pas les moyens, on n'a pas non plus les effectifs. Et puis, ce n'est pas notre métier. C'est un métier de faire des études de ce type-là. On a des personnes qui sont sociologues, psychologues dans l'association, mais en fait, ce n'est pas leur travail et leur bénévolat ne porte pas là-dessus. Si on doit le faire nous-mêmes, pas de souci, mais on aimerait bien qu'on puisse nous donner accès aux outils et aux moyens dont on a besoin pour le faire. Le deuxième axe, nous, c'est vraiment une proposition de mener des campagnes qui soient plus conséquentes, qui soient plus pertinentes parfois et qui soient vraiment cohérentes. C'est un mot très important. C'est-à-dire qu'on voudrait un plan d'action global, nous, sur la lutte contre les discriminations et les harcèlements de rue, tous les types de harcèlement de rue, s'il vous plaît, en lien avec des associations, des collectifs qui travaillent sur le sujet, des personnes militantes, des chercheuses, hein, tout le monde qui puisse vraiment y participer et pas un énième cabinet privé qui fait des PowerPoint. En fait, ce qu'on remarque, c'est que souvent, c'est des campagnes qui sont isolées, parce qu'elles ne sont pas liées entre elles, parce que en fait, c'est notre asso, une autre asso, voilà, qui vont mener leur petite campagne dans leur coin de communication, d'intervention. Et souvent, on est en difficulté de financement déjà. parce qu'on ne se rend pas compte de combien ça coûte l'affichage. Et en plus, on va avoir des choses qui sont peu cohérentes, presque être contradictoires sur les propos, parce que parfois ça va être des municipalités qui vont faire ça sans forcément parler d'assos qui peuvent les conseiller derrière. Et on aimerait vraiment quelque chose de plus global, de plus complet, qui va en fait inclure à la fois des campagnes vraiment de communication, de sensibilisation, de prévention, et puis vraiment des interventions ciblées en milieu scolaire, dans divers milieux hein, évidemment, mais en milieu scolaire c'est vraiment important de commencer tôt, avec des moyens mis en place pour le faire, avec un plan qui soit cohérent sur plusieurs années, comme c'est fait sur pas mal d'autres thématiques en fait. C'est pas assez fait là-dessus. La grande cause du quinquennat, deuxième édition, ça fonctionne pas comme on voudrait.
Avant de poursuivre, on va s'offrir une nouvelle pause musicale avec une jeune chanteuse colombienne tout à fait remarquable, autrice de cette chanson que Marie a choisie pour vous. Ça s'intitule comment, Marie ?
No me toques mal de La Muchacha et Santiago Navas. Et pourquoi je l'ai choisi ? Parce que ça a fait l'objet d'un partenariat entre la compagnie de danse Les Guérisseuses à Tours et de Stop Harcèlement de Rue. Voilà, c'est une chanson qui a été créée justement pour parler du harcèlement de rue.
La Muchacha, on va en reparler après la chanson. No me toques mal, qu'on pourrait traduire par « me touche pas ».
Vamos pa' arriba. Tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer, y no me toques mal, no me toques, no me toques mal, no me toques mal. No me toques mal. Tengo una cicatriz de hace siglos. Tengo mis heridas en el ombligo. Y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme la selva entera y sin miedo a la oscuridad. Devorarme tus carreteras. Juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra y no me toques mal. No me toques, no me toques mal. No me toques mal. No me toques, no me toques mal. Tam bum ba para bum bo bo pere, tom bo bum ba para tena yuntai, toro bum bo 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 bum bo bo. De pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas, deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas, deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas, porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres, quiero que no me quieras siempre para desvestirme, quiero mi cara libre, quiero mi culo libre, quiero que no me quieras siempre para desvestirme, quiero mi cuerpo libre, quiero mi útero libre, quiero que no me quieras siempre para desvestirme, que hambre y sueño es lo que usted tiene, hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño lo que usted tiene que no me toques mal. No me toques, no me toques mal. No me toques mal.
Me Toques Mal, une chanson devenue un hymne féministe signée La Muchacha, chanteuse et illustratrice colombienne née en 1994. La Muchacha est entre autres choses activiste politique, sorte de chroniqueuse de l'actualité. Elle chante notamment pour alerter sur des causes féministes comme les agressions sexuelles, mais elle chante aussi pour des luttes environnementales comme la protection du précieux écosystème du páramo colombien, écosystème de montagne situé au niveau de la mer et essentiel dans le processus de filtrage de l'eau de certaines villes qui se situent principalement dans la cordillère des Andes. La Muchacha chante encore sur les exécutions extrajudiciaires connues sous le nom de falsos positivos, en Colombie donc. Bref, la Muchacha est une personnalité. Suite de notre survol des actions menées par l'assaut Stop Harcèlement de Rue, avec le dispositif Angela, qu'on a déjà évoqué, ça se passe à Tours et sûrement ailleurs avec un autre nom, et c'est un dispositif qui pourrait s'organiser un peu partout. De quoi s'agit-il, Marilyn ?
Alors, le dispositif Angela, c'est un dispositif qui permet à toute personne qui se sent en insécurité dans la rue, qui se sent suivie, qui se sent regardée, ou même carrément qui se fait agresser, parce que c'est possible aussi, de trouver un abri au sein d'un établissement partenaire que nous avons formé. Les établissements partenaires sont reconnaissables à un petit macaron qui est sur la vitrine, où il y a marqué « Demandez Angela » ou... Et la personne rentre dans ce commerce et dit, par exemple, je voudrais parler à Angela, est-ce qu'Angela est là ? Donnez-moi le cocktail Angela, voilà. Et immédiatement, le commerçant sait ce qu'il doit faire. Il sait qu'il faut prendre en charge la personne, que c'est une victime et qu'il faut agir. Alors, il y a différents moyens d'agir. Hein. Il y a par exemple juste proposer à la personne de se mettre dans une pièce à part pour respirer, pour décompresser, pour... voilà. Se reposer le temps que l'agresseur s'en aille. Il y a aussi la possibilité d'appeler un taxi, de proposer d'appeler des copains ou de la famille pour venir chercher la personne. En cas de situation grave, proposer d'appeler la police également pour une prise en charge. Et si le commerçant a des caméras de vidéosurveillance, il a la possibilité de geler les images et de les transmettre à la police dans le cadre d'un dépôt de plainte. Voilà. Alors les partenaires Angela, au début c'était principalement des bars. Et depuis l'année dernière où nous avons signé le partenariat commerçant solidaire avec la mairie de Tours, les points Angela peuvent être aussi toutes sortes de commerces. Alors nous sélectionnons nos partenaires parce que nous tenons beaucoup à ce que les partenaires portent nos valeurs également. Donc, nous leur faisons un petit questionnaire, nous allons visiter les lieux pour voir comment ça se passe, les interactions entre collègues, voilà, un petit coup d'œil, voir l'ambiance générale de l'établissement. Et après, on leur propose une formation qui dure 1h, 1h30, ça dépend. Moi, j'ai fait des formations où les gens avaient zéro question, au bout de 3/4 d'heure, j'avais fini. Et des formations où les gens étaient super actifs, on se renvoyait la balle, ça a duré 2 heures. Donc ça dépend également des interactions que l'on a avec les employés. Donc c'est une formation. Et à l'issue de cette formation, on signe une charte entre eux et nous, avec des engagements. Ils s'engagent à respecter les valeurs qu'on leur a transmises et accueillir les gens qui viendraient chercher du réconfort. Et nous, on signe également la charte. À l'issue de ça, ils sont labellisés Angela et on les suit de très près parce qu'il suffit qu'on entende des petites choses bizarres, on peut retirer le label. Le label n'est pas un totem d'immunité. Le label Angela, il porte quand même des valeurs. Des valeurs que la personne, elle se sent en sécurité. À partir du moment où il y a un employé problématique dans l'entreprise, on peut retirer le label comme ça s'est déjà passé. Mes deux établissements se sont déjà fait retirer le label Angela parce que changement de personnel et il s'est trouvé que la personne nouvellement embauchée n'adhérait pas aux valeurs de l'association ou était un agresseur bien connu. Donc dans ces cas-là, on retire le label. Donc la formation qu'on délivre, elle est entièrement gratuite. On leur fournit tout un lot d'outils, on leur fournit de l'affichage à mettre. Alors on leur conseille souvent dans les toilettes. Après, si c'est un commerce qui n'a pas de toilette, genre une épicerie, voilà, dans un petit coin où la victime peut lire avec les numéros de contact utiles. On leur fournit tout ce qu'ils font en communication. Et prochainement, nous allons lancer un compte Instagram dédié à Angela. On travaille dessus actuellement et on vous le communiquera dès qu'il sera lancé. Si vous cherchez un établissement labellisé Angela, ils sont listés uniquement sur les réseaux sociaux de Stop Harcèlement de Rue. Alors méfiez-vous, parce qu'il y a des établissements, on a eu le cas il n'y a pas longtemps, il y a des petits malins qui se labellisent tout seul Angela. Ah bah oui, ils font une belle communication sur Instagram en disant « Venez chez nous, on est Angela », sauf que, en plus, on les connaît, ce sont des gens très problématiques. Mais en plus, on ne les a jamais labellisés Angela. Donc si vous voulez être sûr que l'établissement est labellisé Angela, référez-vous toujours à nos réseaux sociaux ou alors n'hésitez pas à venir nous poser directement la question dans nos DM Instagram. On vous répondra est-ce que oui ou non cet établissement est Angela ou pas.
D'ailleurs, si vous êtes un bar ou un établissement, un commerce tourangeau et que l'envie de vous faire labelliser et de suivre la formation vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux ou par mail directement de Stop Harcèlement de Rue.
Je tiens également à préciser que être labellisé Angela, on a eu le cas il n'y a pas longtemps d'un gérant de bar qui nous avait sollicité pour avoir le label Angela. On lui avait répondu, et puis après, c'est un peu tombé dans l'oubli. Et un jour, à l'occasion, on va prendre un verre chez lui, dans son bar. Et on lui dit, coince un peu le gérant dans un coin, et on lui dit, mais dis donc, tu nous avais sollicité pour Angela, on t'a répondu, mais tu nous as jamais fait de retour. Et il nous a dit, ben oui, mais moi, mon bar est safe, ma clientèle est à l'abri, je réagis s'il se passe quelque chose de pas bien dans mon bar. Donc, je vois pas l'utilité d'avoir le label Angela. Alors j'ai répondu, mais oui, mais ta clientèle sait que tu es safe. Mais la personne au bout de la rue qui est en train de se faire suivre dans un coin sombre, comment elle sait que tu es labellisée Angela si tu n'es pas répertoriée Angela? Et là, il a commencé à réfléchir et elle a dit, ah oui, là tu marques un point, effectivement, si je ne suis pas labellisée Angela, les gens de l'extérieur ne peuvent pas le savoir. Tout ça pour dire que même si vous jugez que votre établissement est safe, c'est mieux de demander le label Angela, parce que les gens, quand ils se promènent dans la rue, ils ne le savent pas forcément. Et s'ils ont besoin d'avoir un abri, c'est très bien qu'ils puissent vous trouver sur une carte ou sur nos réseaux sociaux.
Oui, en fait, l'intérêt aussi du dispositif Angela, c'est vraiment de créer un réseau dans la ville, en l'occurrence, dans laquelle on est. Parce qu'en fait, quand dans un bar, on va dans les toilettes et qu'on voit l'affiche Angela qui dit « Vous vous sentez mal à l'aise, vous pouvez demander de l'aide ici. » Si on est une personne susceptible de subir des discriminations, du harcèlement, des agressions, dans ces lieux-là notamment, on va se sentir moins seul, on va se sentir un peu plus à l'aise. On ne peut jamais garantir qu'un lieu est safe, c'est jamais 100% le cas. Mais en tous les cas, on sait que les personnes ici ont été formées, sont volontaires pour nous aider et c'est déjà vachement rassurant. D'autre part, si on est une personne qui va dans les toilettes de ce même bar et qu'on est susceptible de commettre du harcèlement ou des agressions, et on va être un peu moins susceptible après avoir vu l'affiche qui dit qu'on va vous foutre dehors, en fait, si vous le faites. Et si on commence à voir ça dans plusieurs établissements, plusieurs commerces, petit à petit, on va se dire « Bah, en fait, je peux faire ça nulle part, je vais peut-être me calmer un petit peu. » Bon, je vis un peu dans mes rêves, je pense que personne ne se dira ça, malheureusement, exactement comme ça. Mais l'idée, c'est de montrer aussi aux harceleurs potentiels, aux harceleurs tout court, qu'il y a un vrai réseau de solidarité qui existe, à Tours notamment, et que vous ne pouvez pas continuer à faire ça en toute impunité.
Autour du harcèlement de rue, on a donc déjà évoqué les victimes, les agresseurs, mais il peut aussi y avoir d'autres actrices de la situation, comme les tenanciers d'établissements publics qu'on évoquait à l'instant, et il peut aussi y avoir d'éventuels témoins. Que faire si on assiste à une agression, Marie ?
Alors effectivement, concrètement, on fait quoi ? Parce que pour beaucoup de personnes, on a déjà été témoin de comportements discriminants, de harcèlement, d'agression dans la rue ou dans les transports publics. Et souvent, on ne sait pas comment réagir et on voulait vous parler de la méthode des 5D.
Les 5D, distraire, déléguer, documenter, diriger, dialoguer.
Donc c'est une méthode qui incite le témoin à réagir. Le but c'est de permettre à chaque personne de s'interposer, d'aider ou de faire cesser une situation de harcèlement, d'insulte ou de menace. Alors tout d'abord, en fonction de la situation et à chaque fois, l'important c'est toujours d'être en sécurité soi-même avant d'intervenir, quelle que soit la manière dont on intervient. Alors, Le premier D. Détourner l'attention, c'est la méthode de la distraction. C'est une des méthodes les plus faciles à appliquer si on veut intervenir directement, que ce soit auprès de la victime ou du harceleur. Le but, c'est de distraire l'un ou l'autre. Donc, soit en interpellant la victime en faisant semblant de la connaître pour lui permettre de s'échapper de cette situation, ou bien d'interpeller le harceleur en lui demandant l'heure, en lui disant qu'on est perdu, de nous indiquer une direction et de permettre du coup à la victime de sortir de la situation, de s'éloigner, de partir. Le but, c'est d'éloigner la victime ou de s'éloigner avec elle. Le deuxième D, ça serait demander de l'aide ou la délégation. Ça consiste au fait de demander assistance à une tierce personne et de faire cesser l'effet spectateur en ciblant directement une personne et en lui demandant quelque chose de bien précis. Par exemple, dire « vous avec les lunettes et le pull bleu, venez avec moi, on va aider cette personne » ou « vous avec le pull jaune, appelez la police ». Voilà. L'effet spectateur, rapidement, c'est un effet qui fait que si on arrive dans une situation et que personne ne réagit, nous-mêmes, on est bloqué et on ne réagit pas. On se demande pourquoi nous, on réagirait et pourquoi les autres ne le font pas. Et du coup, au final, la situation perdure et personne n'agit directement. Troisième D, ce serait le fait de dialoguer avec la victime. Donc c'est quelque chose qui se passe plutôt après ou quand on arrive une fois que la personne a déjà subi quelque chose, ou qu'on ne se sent pas capable d'agir sur le moment. Donc le but, c'est de s'assurer que la personne va bien et de lui proposer de l'aide, donc que ce soit de la raccompagner, si elle a besoin qu'on la raccompagne chez elle, qu'on la raccompagne chez des amis, qu'on l'accompagne directement au commissariat si elle souhaite porter plainte, si elle a besoin qu'on appelle un taxi. Enfin bon, en tout cas, dialoguer avec la victime, s'assurer qu'elle va bien et savoir si elle a besoin de quelque chose. Le quatrième D, donc, c'est documenter. Dans certaines situations, il peut être opportun de filmer la situation pour récolter des preuves et proposer ces preuves à la victime dans une démarche de signalement ou de plainte. Avant de documenter, ce qui est important, donc, au-delà de se mettre nous-mêmes en sécurité, c'est être sûr qu'il y a potentiellement une personne qui peut directement agir sur la situation, aller interpeller l'agresseur, voilà, détourner l'attention, quelqu'un qui pourrait aussi appeler la police, voilà, pour qu'en parallèle, on puisse documenter la situation. Une fois qu'on a filmé la scène, on peut aller proposer ces images à la personne qui vient de subir du harcèlement, demander à la victime si elle souhaite avoir les vidéos ou pas, pour potentiellement porter plainte. En tout cas, avant d'utiliser ces images, il faut toujours demander à la victime sa permission et surtout ne jamais diffuser les images sur les réseaux sociaux, sur internet. Voilà, si la personne ne veut vraiment pas des images, c'est des images qui sont à supprimer. Et pour finir, le cinquième D, c'est directement de dire stop. Donc c'est peut-être la situation qui est la moins facile. Et du coup là, il s'agirait d'interpeller directement l'agresseur en pointant ce qui se passe et ce que l'agresseur fait. Voilà, donc en disant voilà, c'est du harcèlement, vous n'avez pas le droit, ou interpeller la victime en expliquant ce qui se passe, en disant est-ce que cette personne vous importune. Enfin voilà, donc directement agir sur la situation, c'est plus difficile et toujours faire attention à être en sécurité soi-même avant d'agir sur une situation.
Où est le D dans cette
scène? C'est dire stop. Voilà.
Ou comme direct.
Ou comme, voilà.
C'est bientôt la fin de cette rencontre avec les 4M de Stop Harcèlement de Rue. On l'a vu, une asso nationale avec des antennes sur tout le territoire. Et au moment où on se parle, donc en ce printemps 2024, l'asso compte une quarantaine de membres. Ce qui semble finalement assez peu au vu de l'énorme quantité de travail abattu. Et ce qui laisse donc supposer qu'il s'agit d'une quarantaine de militants et militantes extrêmement actifs et actives. Alors comment fait-on pour faire partie de Stop Harcèlement de Rue, Marilyn ?
Pour nous rejoindre, c'est tout simple. Il suffit de nous contacter sur nos réseaux sociaux et de nous envoyer un gentil petit message en disant « Bonjour, je voudrais être bénévole ». Quelqu'un de l'antenne vous répondra. Pour nous rejoindre, alors nous sur l'antenne de Tours, on vous rencontre une première fois autour d'un verre, sympa, dans un café, c'est chill, c'est décontracte, et on discute un petit peu ensemble, et puis après, on vous intègre à l'antenne. Et si vous êtes d'une autre région où il n'y a pas encore d'antenne, par exemple, eh bien, on vous passe un petit coup de fil, on fait une petite visio, question de papoter un peu, de connaître votre parcours militant. Et vous êtes après intégré à Stop Harcèlement de rue. C'est tout simple. La cotisation est de 2 euros à l'année pour un bénévole actif. N'hésitez pas.
Et juste pour finir, il faut savoir que si vous souhaitez vous engager auprès de nous, voilà, il n'y a pas de régularité imposée. C'est vraiment à hauteur de ce que vous pouvez donner en termes de temps et en fonction de la période dans laquelle vous êtes. Voilà, il n'y a pas une obligation d'assister à toutes les réunions ou d'être à tous les stands, etc. Voilà, l'important, c'est de vouloir vous investir et voilà, de participer avec nous à quelques projets.
Une phrase que je dis souvent en entretien, il n'y a pas de pression à Stop Harcèlement de rue. La seule pression, elle est à base de maltais de houblon et on la boit dans un bar.
Avant de se quitter, les amis, si je veux en savoir plus sur Stop Harcèlement de rue et que je suis devant mon écran, qu'est-ce que je peux consulter? Où je vais?
Tout d'abord, il y a notre super site internet où on peut télécharger affiches, brochures, toute forme de documentation et s'informer et s'éduquer sur le harcèlement de rue, qu'est-ce que c'est et comment lutter contre. Il y a aussi notre compte Instagram. Il y a le compte Instagram de l'antenne de Tours qui s'appelle StopHDR37. Et nous avons également un compte au niveau national qui s'appelle StopHDR. Alors, si vous êtes de Tours, communiquez plutôt sur celui de l'antenne de Tours. Voilà, comme ça, vous aurez des personnes locales, gentilles et sympathiques, comme nous quatre. Vous voyez, on est gentils, on ne mord pas, on est adorables. N'hésitez pas à venir nous faire coucou. Nous avons également des comptes Twitter, pas forcément très actifs, mais on est dessus. Et nous avons une page Facebook. Et nous avons même Blue Sky.
Waouh!
Wow. Manquerait plus qu'on débarque sur Thread.
Et voilà les amis, après les 5 D, c'est ici la fin de cet échange avec les 4 M de Stop Harcèlement de rue, qu'on remercie. Merci aussi aux établis et à leurs frais paillettes, deux assos qu'on retrouvera sur le festival au quart de tour et ailleurs. C'était donc le 5e épisode de cette série contre les VHSS, violence, harcèlement, sexiste et sexuel. Série à réécouter sur notre site, polémiquesetlavoixoff.com. Avant qu'on se retrouve très bientôt sur votre radio préférée, ce n'est qu'un combat, continuons le début, et que la fête soit belle pour tous.